conversation urbaine et architecturale, Myriam Schwartz, architecte et urbaniste.
Radio-imo.fr.
Une émission présentée par Cardam, l'engagement d'un groupe innovant, un savoir-faire qui allie conseil, architecture et aménagement.
Toujours dans la dynamique et dans l'innovation, chers auditeurs. Je reçois aujourd'hui Alexandre Bouton, architecte, urbaniste, charpentier incroyable pour un urbanisme, on va en parler, fondateur et gérant de l'agence UrbanAct. Bonjour.
Bonjour.
Alors, c'est un périple assez incroyable. Donc, charpentier, je vais commencer par charpentier. Comment passe-t-on de charpentier à architecte et urbaniste ? Il y a une logique, évidemment, mais vous pouvez nous en parler un peu plus ?
Disons que la logique, elle se construit un peu avec le temps, quoi. C'est un parcours un peu chaotique au départ. Et puis là, j'essaie de rassembler un peu les choses avec l'agence UrbanAct. C'était pas écrit dès le départ, clairement. Charpentier, c'était l'École nationale du bois à Mouchard, parce que je suis originaire d'une région extrêmement forestière, la Franche-Comté. Donc je suis un peu né au cœur de cette forêt.
Au cœur de la forêt,
voilà,
quoi, c'est ça.
Ça, exactement. Donc là, c'était une formation extrêmement intéressante avec les compagnons qui nous formaient sur des machines à commande numérique. Donc il y avait un petit décalage entre la main et le cerveau, la pensée, mais en même temps, ça m'a vraiment permis de comprendre justement où était la limite de la matière.
Mmh.
Voilà, la confrontation à un morceau de bois, la densité du bois entre le feuillu, le résineux, la manière avec laquelle on le cultive, on le travaille, c'était passionnant.
Et alors, est-ce que c'est ça qui vous a donné l'envie d'enseigner, puisque j'ai vu dans votre CV, on va en parler tout au long de cette interview, tout au long de cette conversation, que vous êtes enseignant. Donc, est-ce que c'est cette première partie de votre vie professionnelle qui, quelque part, vous a donné ce goût ?
Je pense que dans la dimension du compagnonnage et de la manière avec laquelle on est apprenti quelque part un peu toute sa vie, on est toujours en train de d'apprendre et donc du coup aussi de servir quelque part un peu de tuteur ou dans tous les cas de construire un échange entre ceux qui rentrent dans la profession, ceux qui y sont déjà. C'est quelque part un chemin que je trouve passionnant. Donc j'enseigne pas en tant que grand professeur ou voilà, j'interviens ponctuellement en école d'ingénieur à l'école des ponts. Je suis intervenu assez longuement pendant 10 ans à Sciences Po, notamment sur la dimension écologie urbaine. Et donc là, voilà, il y a quelque chose de passionnant dans cet échange avec les étudiants. Ouais.
Alors, vous travaillez énormément sur les territoires, en Île-de-France et ailleurs, bien entendu. Alors, expliquez-moi, l'urbanisme, c'est un acte politique ou pas ?
Pour moi, clairement.
Bon, c'est un peu provoque de ma part de dire ça, mais pourquoi pas ?
Pour moi, clairement, c'est un acte politique. Le travail sur le territoire, c'est vraiment quelque chose qui permet de l'organiser, de le penser, de relier le court terme au long terme. Et c'est quelque chose de pas évident aujourd'hui dans la crise politique, la crise écologique qu'on vit, où il y a quelque part une vraie défiance de la parole donnée et donc du coup une vraie difficulté à projeter le devenir d'un territoire. J'aime cette vision de Deleuze de la déterritorialisation et de la reterritorialisation. C'est-à-dire, ce qu'il expliquait, c'est que pour lui, l'acte artistique le plus primaire que partagent tous les animaux, c'est cette manière de construire leur propre territoire. Et là, il y a quelque chose de très fort qu'en tant qu'urbaniste, on cherche un peu à accompagner.
Bon, la différence, c'est que les animaux ont un ressenti et une certaine parole, mais nous ne la comprenons pas du tout, cette parole, ou pas beaucoup en tout cas, alors que nous sommes confrontés en tant qu'urbanistes et architectes à la parole des politiques, des élus, des commanditaires, des aménageurs, etc. Comment fait-on de cela un cocktail, je dirais, dynamique, mais aussi doux à nos papilles, plutôt que quelque chose de trop difficile à avaler ?
Mais disons que dans la relation au contexte auquel on se confronte, il y a souvent des données présentes qui peuvent être extrêmement intéressantes. Quand on voit la géographie dont on hérite, Je sais que là, nous, on travaille sur des projets qui sont souvent dans des contextes extrêmement contraints, des lieux qui sont des héritages du XXe siècle, de l'ère du tout pétrole, notamment autour de grosses infrastructures que sont le périphérique parisien ou des autoroutes comme sur l'Euroairport de Bâle, où on travaille sur la mutation d'un secteur de 90 hectares. Et on voit que là, il y a une nécessité, je dirais, de s'appuyer sur ces éléments-là pour les digérer, pour les intégrer à la ville et en faire de véritables lieux d'échange et pas juste des lieux où les gens passent mais ne se croisent pas. Donc on a, je dirais, un resserrement des flux là où, où on peut s'appuyer sur ces éléments-là pour créer quelque chose de vraiment lié à ce contexte, alors, à ses particularités, et pas juste une plaquette de chocolat qui serait une ZAC ou un urbanisme, je dirais, plus juridique que projectuel.
On va dire, j'ai fait toujours de cette phrase, je dirais, un petit peu ma marotte, nous sommes architectes et urbanistes de contexte et non de concept, n'est-ce pas ?
Exactement, je suis tout à fait d'accord
voilà.
avec ça.
Quelque chose qui nous rapproche. Alors, j'aimerais bien savoir comment on peut être sûr d'avoir la bonne réponse, puisque chaque jour est un nouveau jour, on se lève en ayant une idée puis une autre, on doit la partager de toute façon, avec les élus, avec les acteurs du territoire, avec les habitants, bien entendu, puisque souvent, malheureusement, il existe encore des projets urbains qui se font ex nihilo, hein, sans les vraies personnes qui marchent et qui se déplacent sur ce territoire et qui y vivent. Comment fait-on pour avoir le ressenti de la bonne réponse, hein, puisqu'on ne le sait pas, au fond?
En fait, c'est vrai que c'est pratiquement impossible aujourd'hui d'avoir la bonne réponse. Il faut partir de là, quoi. C'est-à-dire qu'on est face à des incertitudes qui sont tellement importante, d'où la difficulté, je pense, aujourd'hui du politique à se positionner et à projeter, d'où cette difficulté aussi qu'il a à pouvoir prendre des décisions, à les porter dans le temps, c'est de plus en plus complexe. Et je pense que c'est là où il y a une nouvelle manière, une nouvelle méthode de construire le projet à complètement réinventer. C'est plutôt cette manière de construire un parcours, un chemin, un projet à travers une remise en question continuelle, c'est-à-dire une forme d'instabilité, mais qui, quelque part, n'est pas voilà, le fait de ne pas figer un
c'est
projet
c'est pas différent
urbain.
De la vraie vie.
Oui, voilà, exactement. On apprend à jouer, on apprend à s'adapter et quelque part, c'est ça. Alors, ça demande plus de réactivité, plus d'échanges, plus de dialogue, mais c'est quelque chose de passionnant.
Oui, mais alors les outils aujourd'hui que nous avons, que ce soit les ZAC ou que ce soit les permis d'aménager, etc., les outils, je dirais, juridiques et administratifs, sont-ils à la mesure de cette instabilité et de cette nécessité absolue de bouger tous les jours?
Ça, c'est une très bonne question. Je pense qu'ils sont complètement obsolètes. C'est-à-dire tous ces outils sont issus de l'urbanisme à la française ou le public, enfin, un urbanisme d'initiative publique. On voit bien que l'urbanisme à la française se confronte ou en tous les cas va vers un urbanisme plutôt à l'anglo-saxonne, un urbanisme qui vient du terrain, qui peut être autant d'initiatives privées que d'initiatives publiques, un urbanisme de partenariat. Et là, clairement, les outils qui sont en place sont plus haut niveau, quoi. Donc de nouveaux outils se mettent en place avec le projet urbain partenarial ou alors d'autres méthodes.
Oui, mais est-ce qu'il n'est pas issu, ce projet urbain partenarial, de la nécessité absolue de faire entrer le privé dans cette initiative publique, puisque de toute façon il y a un problème évident de financement et de capacité à acheter les fonciers qui appartiennent parfois à des privés. Est-ce que c'est quelque part pas, le législateur s'est senti obligé d'accepter cette formule, mais au fond...
Aujourd'hui, peut-être, on en est là. Après, il faut regarder, l'urbanisme tel qu'il a été construit durant les 20 dernières années. Est-ce que les ZAC des années 80, 90 vont nous donner un héritage, de modèles urbains qu'on aura envie de retenir et qui vont être au niveau de ce qu'était la ville haussmannienne ou la ville allemande? Je ne sais pas, c'est une question, je pense, qu'on peut se poser. En tous les cas, il serait intéressant d'analyser un peu cette évolution-là. Aujourd'hui, c'est clair qu'il y a de nouveaux modèles à inventer. L'urbanisme anglo-saxon, de ce point de vue-là, je pense, nous donne des bons modèles sur cette capacité de s'adapter à des contextes sans planifier et figer, je dirais, les choses de manière trop... Après, la place du privé, je suis d'accord avec vous, il faut véritablement la redéfinir, il faut que ce soit un un partenariat, une solidarité, un New Deal à construire entre les objectifs d'intérêt général, les infrastructures à financer, et puis la manière avec laquelle, à un moment donné, un promoteur, un privé, va venir jouer le jeu d'une plus-value en lien avec cette solidarité-là.
Alors, vous prenez l'exemple du modèle anglo-saxon, il n'a pas toujours fait ses preuves en termes de d'approche vis-à-vis de la population et d'aptitude à comprendre l'humain. Parce qu'on a eu quand même en Angleterre, sans présager, de tous les projets, parce qu'évidemment nous sommes ici et non là-bas, on a toujours eu le sentiment quand même de l'autre côté de la Manche d'avoir dans les projets urbains anglais et dans les exemples anglais une espèce de dichotomie entre le privé-privé, c'est-à-dire quelque part le fait de faire de l'argent grâce au projet urbain et à la construction, avec des tours, avec des choses mais extrêmement dures parfois contre les habitants, et le fait d'avoir parfois le sentiment que les habitants sont laissés sur le carreau. Alors c'est pas tout à fait l'exemple que nous souhaitons ici.
Non, clairement pas. C'est vrai qu'il y a, d'un côté le côté New Deal. Par exemple, une loi que je trouve extrêmement intéressante en Angleterre, c'est cette idée qu'on ne peut pas construire de centres commerciaux en périphérie tant qu'on n'a pas prouvé qu'on ne pouvait pas les réaliser en centre-ville. Ça a donné de très belles opérations, notamment Bullring à Birmingham ou Bristol ou Liverpool One, où des aménageurs comme Amerson se sont construits du coup sur un savoir-faire de réhabilitation de centre-ville qui, de mon point de vue, est exceptionnel par rapport à ce qu'on a fait nous en France, à ce qu'on a laissé faire. Après, c'est vrai que sur la parole des habitants, là, il y a encore des choses à inventer, à créer, et on est en train d'avancer de ce niveau-là.
Alors, nous sommes presque au bout de cette interview. J'ai quand même l'impression que nous sommes restés un petit peu... on n'a pas encore assez parlé de vos opérations en Île-de-France et dans le Nord. Peut-être allons-nous nous retrouver sur un deuxième épisode.
Avec plaisir.
Au revoir, chers auditeurs, et à bientôt sur nos antennes.
Conversation urbaine et architecturale. Myriam Schwartz, architecte et urbaniste.
Radio-imo.fr.
Une émission présentée par Cardam, l'engagement d'un groupe innovant, un savoir-faire qui allie conseil, architecture et aménagement.